Alors, rebonjour à tous. Donc, pour ce panel intitulé « Occulté par violence, ce que la guerre fait au patrimoine », nous allons nous intéresser à comment la destruction, la perte et l'absence créées en contexte de guerre peuvent constituer en creux, finalement, des patrimoines matériels et mémoriels à conserver et ou à mettre en lumière. Les guerres, vous allez nous en parler, sont parmi les premiers agents de destruction du patrimoine et créatrices d'absence. Comment est-ce qu'on peut documenter ou reconstituer des œuvres et des collections absentes ou perdues? Et à l'inverse, comment peut-on préserver les vestiges matériels des conflits contemporains qui sont des témoins, vous allez nous le montrer, voués à disparaître des événements récents et en même temps qui sont constitutifs d'un patrimoine mémoriel à conserver. Donc pour cette intervention, pour ce panel, nous avons donc une première intervention à deux voix, d'Anne Labourdette et Hervé Cabezas, qui vous allez nous parler donc des œuvres disparues des musées du nord de la France pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Anne Labourdette, vous êtes conservatrice du patrimoine au département des objets d'art du musée du Louvre, en charge des textiles, meubles, vitraux et instruments scientifiques de la Renaissance depuis 2019. Et diplômée donc, de Sciences Po Paris, de l'Institut national du patrimoine et de l'Université de Lille. Vous avez précédemment dirigé les musées de Vernon et de la Chartreuse de Douai, et c'est dans ce dernier poste que vous avez mené une étude sur les collections disparues du musée lors des deux guerres mondiales, portant particulièrement sur les tableaux présumés détruits lors des bombardements de 1940 et 1944, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Hervé Cabezas, vous êtes docteur en histoire de l'art, diplômé de l'Université de Paris-Sorbonne et conservateur au musée Antoine Lécuyer à Saint-Quentin depuis 2000. Vous vous êtes intéressé dans ce cadre à l'histoire des collections déplacées et disparues pendant la Première Guerre mondiale, à laquelle vous avez consacré une exposition en 2007 et un article dans la Revue des musées de France en 2014. Et donc, en contrepoint de cette première intervention, Mathilde Murat nous parlera des guerres contemporaines en Irak. Mathilde Murat, vous êtes docteur en archéologie, diplômée de l'Université Paris en Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'archéologie des pays en conflit au Proche et Moyen-Orient. Vous avez soutenu votre thèse en 2021 sur la dynamique des tels et des destructions militaires. Vous êtes membre de Arkaios, qui est une société de recherche scientifique dans le domaine du patrimoine et de l'archéologie et du laboratoire ArtScan, archéologie et sciences de l'Antiquité, en tant que chercheuse indépendante au sein du programme de recherche du village à l'État au Proche et Moyen-Orient. Je laisse la parole donc à Madame Labourdette et Monsieur Cabezas.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, Hervé et moi tenions à remercier les organisatrices de cette journée d'études, ainsi que l'INP pour nous avoir ainsi conviés à parler. Alors, nous sommes tous les deux de très grands bavards. Nous avons donc choisi de lire l'intervention parce que si nous nous mettons à digresser devant le PowerPoint, nous vous tenons jusqu'en bon milieu d'après-midi. Donc, j'espère que ce sera quand même audible et écoutable. Et en fait, nous vous proposons ce sujet puisque nous avons tous les deux travaillé sur des questions résultant des absences d'œuvres dans les collections des musées où nous avons travaillé ou où nous travaillons, celui de la Chartreuse de Douai et celui du musée Antoine Lécuyer à Saint-Quentin. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes rencontrés et que nous échangeons depuis des années sur cette question qui est à la fois philosophique, professionnelle et également personnelle. Alors, nous voudrions vous présenter deux études de cas, puisque pour ceux qui, parmi vous, prendront des postes dans le nord de la France, dans l'Est, en Bretagne, en Normandie, voire dans le centre de la France, que cela soit dans un musée ou dans les monuments historiques, vous serez confrontés à la manière dont les guerres ont tamponné, percuté l'histoire des patrimoines dont vous aurez la charge et la gestion. Alors, cette question des œuvres manquantes, des œuvres absentes, des œuvres disparues, il faut quand même bien le dire, notamment lorsqu'il s'agit d'œuvres disparues dans des musées du nord de la France, autant dire des musées de province, des œuvres dues parfois à des artistes un peu trop oubliés du grand public, eh bien, cette thématique ne suscite pas forcément l'intérêt du grand public ni de vos futures tutelles, mais par contre, elle risque de susciter l'intérêt médiatique lorsqu'une œuvre absente réapparaît. Et vous avez ici Madonna, qu'on ne présente plus, devant un tableau de Jérôme Martin Langlois, qu'elle a acheté dans une galerie en 1988, et qui est pratiquement trait pour trait la copie ou le tableau disparu du musée d'Amiens pendant la Première Guerre mondiale, à cause de la Première Guerre mondiale, Et encore aujourd'hui, un débat existe pour savoir s'il s'agit de ce tableau, qu'elle aurait acquis de bonne foi, mais qui est inaliénable, imprescriptible, dépôt du musée du Louvre au musée d'Amiens, ou s'il s'agit presque du même tableau. C'est un problème récurrent lorsqu'une œuvre considérée comme disparue réapparaît. Alors, au-delà de la petite anecdote, que s'est-il passé pour expliquer ces disparitions de dizaines, voire de centaines de milliers d'œuvres? Encore aujourd'hui, le décompte précis de ces œuvres disparues des collections muséales du nord de la France est imprécis et improbable. Dans le nord de la France, et pour aussi loin qu'aient porté nos recherches, ce sont surtout les dommages collatéraux résultant du premier conflit mondial qui sont à l'origine de plusieurs dizaines de milliers de disparitions dans les collections des musées du territoire. Là, la carte ne correspond pas tout à fait aux actuels Hauts-de-France, mais ça vous donne à peu près l'idée et ça vous explique très schématiquement ce qui a pu se passer. Une région en 14, d'abord traversée par les différents belligérants, une course à la mer, des destructions de musées résultant de dommages collatéraux. Et puis, au moment où la ligne de front se fige entre 1915 et 1917, des tirs d'artillerie sur les bâtiments situés à proximité de cette ligne de front qui n'ont pas été protégés avant et pendant la guerre, mais de manière assez curieuse, si je puis dire, la Première Guerre mondiale est aussi une époque où on va se préoccuper en temps de guerre de la protection de ces collections muséales. Et c'est d'ailleurs, mais c'est un autre sujet, un moment où des services de protection et d'évacuation se mettent en œuvre, aussi bien côté allemand que côté français. Toujours est-il que cette ligne de front va bouger, notamment en 1917, et qu'elle va être, là aussi, ce mouvement va être à l'occasion de nombreuses destructions, notamment à Saint-Quentin, mais je vais laisser Hervé le dire bien mieux que moi. Et encore aujourd'hui, les listes des dommages de guerre qui résultent de ces destructions, de ces disparitions, sont imprécises et inexactes et ne permettent pas de quantifier exactement et de donner toute la mesure du phénomène de disparition intervenu pendant le premier conflit mondial. Il en est à peu près pareil, enfin à peu près de la même sorte, pour la Seconde Guerre mondiale, qui a, en comparaison, causé moins de dégâts sur le plan numérique aux collections muséales du nord de la France, parce que cette fois-ci, pour éviter de connaître le même désastre, les services du secrétariat d'État aux Beaux-Arts, notamment, Georges Huysmans, puis Jacques Jaujard, vont organiser, mettre en œuvre un plan d'évacuation d'ampleur des collections muséales, qui n'empêchera toutefois pas les destructions, les disparitions intervenues au moment des bombardements de mai-juin 1940, surtout, comme la carte que je me suis amusée à faire le montre improbablement, et puis les destructions du printemps et de l'été 1944. Donc voilà rapidement, très rapidement posées les conditions du contexte de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de disparitions dans les collections muséales du Nord, mais aussi de l'Est de la France. Et je passe tout de suite la parole à Hervé pour la présentation d'un premier cas d'étude.
Bien, lorsque j'ai pris la direction du musée Antoine Lécuyer, j'ai découvert, c'était l'une des surprises de cette prise de poste, j'ai découvert d'une part qu'un nombre considérable d'œuvres, principalement entrées pendant la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres, n'étaient pas inventoriées, et d'autre part que celles qui avaient reçu, pour une large part, celles qui avaient reçu un numéro d'inventaire et disposaient d'un dossier, étaient très mal documentées, avec souvent des provenances inconnues. Et donc, ma première tâche pour remettre le musée sur les rails a été, d'une part, d'inventorier les premières et de documenter les secondes. Et au fil des ans, l'inventaire rétrospectif et la documentation des collections ont fait apparaître un nombre très, très important d'œuvres disparues au cours de la Première Guerre mondiale qui sont devenues un sujet d'intérêt car elles appartiennent toujours aux collections et qu'elles se trouvent bien quelque part, si elles n'ont pas été détruites, ce qu'il faut démontrer. Donc, retrouver les provenances des présents et identifier les absents sont donc deux missions essentielles au musée Antoine Lécuyer et des missions sans fin, ainsi que je peux le constater quotidiennement dans le cadre du catalogue raisonné des sculptures que je suis en train de rédiger. Et où les absents prennent de plus en plus d'importance, avec des notices qui doivent être aussi importantes que les présents. Deux mots d'abord sur le contexte des disparitions en 1917-1918. À la déclaration de guerre, Saint-Quentin disposait de deux musées, le musée Antoine Lécuyer et le musée dit du Palais de Fervaques. Le musée Antoine Lécuyer, que vous avez ici vers 1910, accueillait d'abord le célèbre fonds d'atelier du plus célèbre pastelliste du XVIIIe siècle, Maurice Quentin de la Tour, ainsi qu'une collection d'objets d'art, une collection d'archéologie et quelques sculptures et peintures du XIXe siècle. En raison de la renommée du fonds d'atelier de la Tour, le Kunstschutz, c'est un service allemand de protection des œuvres d'art des régions occupées, s'est occupé de transporter la collection de pastels et une partie des autres collections du musée Lécuyer à Maubeuge, où l'armée allemande leur avait aménagé un musée spécialement. Ce qui a évité aux collections de ne pas être détruites, car tout de suite après, en février-mars 17, Saint-Quentin, se trouvant sur la ligne d'Hunebourg, a été l'objet des destructions. Voilà, je vous montre le musée après la guerre. Donc, si les collections étaient restées dans le musée, nous aurions eu encore plus d'absentes. Le second musée avait été inauguré le 3 mai 1914, à la veille de la déclaration de guerre, la bonne idée, dans une grande bâtisse de la fin du XIXe siècle, dénommée Palais de Fervaques, et y accueillait les collections du XIXe siècle et notamment les grands dépôts de l'État. Dans ce palais de Fervaques se trouvaient aussi des tableaux dans la salle des fêtes qui, dès le début de la guerre, a été transformée en hôpital militaire. Là, je vous montre une photo de 1916 et vous voyez différents tableaux qui sont installés encore au milieu des lits des malades. Nous sommes en 1916. Le musée de Fervaques ne bénéficia pas de la protection allemande et fut pillé, on peut dire légalement, puisque sur cette photo de 1917, on voit des soldats allemands empaqueter des tableaux et puis des livres et d'autres richesses. Donc pillé légalement, mais sans établir, contrairement à ce qui s'est passé au musée Lécuyer, sans établir de liste des collections prélevées, sans indiquer leur endroit de repli et a fortiori sans les restituer, ce qui a été le cas pour les collections du musée Lécuyer. Par ailleurs, des Français restés sur place ont pu se servir. Donc, évidemment, là, on a des témoignages allemands de pillage autorisé, mais il y a eu d'autres formes de pillage. Et alors, comme vous pouvez le voir, au sortir de la guerre, dans la salle des fêtes, il ne restait que des cadres. Alors, comment retrouver des mentions d'œuvres perdues? Comment essayer de restituer ce musée d'avant-guerre? Alors, pour me faciliter la tâche, les archives et les registres d'inventaire des musées de Saint-Quentin avaient eux aussi disparu pendant la Première Guerre mondiale, ce qui était une difficulté supplémentaire. Alors donc, je partais pratiquement de rien et j'ai dû faire feu de tout bois. Alors d'abord, les sources imprimées. Parmi les sources imprimées, par exemple, les procès-verbaux du conseil municipal avec parfois une indication sur le donateur, une transcription de lettres, mais aussi des acquisitions signalées par le conservateur, signalées ou étudiées par le conservateur dans la presse locale qu'il a donc fallu dépouillés, et puis des descriptions de guides touristiques comme le guide Johan ou le guide Badecker qui, au détour d'un escalier, signale un tableau connu par aucune autre source. Et puis, bien sûr, il y a les dictionnaires artistiques, tels que pour la sculpture, les nombreux volumes du dictionnaire des sculpteurs de l'école française de Stanislas Lamy, qui indique généralement que telle œuvre est conservée dans tel musée. Alors, mais une mention ne suffit pas, il faut savoir à quoi ressemblaient les œuvres et donc là, il faut essayer d'exploiter au maximum toutes les sources iconographiques qui sont à notre disposition. Alors, une source essentielle est la carte postale. Alors, d'abord, des cartes postales d'œuvres. Là, je vous montre celle qui représente Saint-Quentin pris d'assaut, l'Exode, le 29 août 1557. Ben oui, Saint-Quentin a été une ville qui a été constamment envahie et pillée. Donc là, une grande toile de 4,60 m de haut sur 7,20 m qui a été présentée par Francis Tadgrain au salon de 1899 et achetée conjointement par la ville de Saint-Quentin et l'État. L'œuvre de la carte postale, vous la retrouvez au fond de la salle des fêtes. Mais ça, c'est une œuvre irrémédiablement perdue car l'armée allemande a utilisé cette œuvre pour se préserver des courants d'air dans les tranchées. Donc, à la fin de la guerre, il n'en restait que quelques lambeaux qu'on ne pouvait pas restaurer. De toute façon, la ville elle-même était dans un tel état qu'on n'était pas à restaurer des lambeaux de tableaux. Donc, une œuvre perdue, mais connue par la carte postale et par les photographies. Parmi les cartes postales importantes, ce sont les vues de salles de musées. Et là, vous avez le vestibule du musée L'Écuyer, vers 1910, où, vous le voyez, sont disposées un ensemble de sculptures qui ont toutes disparu. Donc voilà le type de sculpture que j'exploite et que je documente dans mon catalogue raisonné des sculptures. Lorsque l'œuvre a été exposée au salon, il faut d'abord se reporter à la presse illustrée, généraliste ou artistique, et au livret illustré des salons, qui contient généralement une sélection d'œuvres, soit d'abord gravées, puis photographiques, des œuvres exposées. Alors, par exemple, je vous montre, alors, dans la salle des fêtes, en bas à droite, vous avez un tableau qui représente le laboratoire d'anatomie comparée au muséum par Édouard Gelet, une toile exposée au salon de 1888, acquis et offert la même année par Alphonse Rothschild, qui a disparu, mais dont on conserve le souvenir grâce au catalogue illustré. Lorsque les œuvres exposées au salon avaient été commandées par l'État ou acquises par l'État, pour la période 1867 à 1894, elles ont été photographiées par Charles-Louis Méchelet ou Méchelez, je n'ai jamais su comment. Par ensemble, et par exemple, Eros piqué par une abeille se plaignant à six tirés, et d'Hippolyte Berthaud exposé au salon de 1870 et déposé par l'État la même année à Saint-Quentin, se trouve au centre de la feuille 23 de cet album Michelet, qui sont conservés aux archives nationales et qui sont consultables en ligne. Donc, lorsque vous avez vous êtes à la recherche d'une œuvre acquise par l'État et perdue, les albums Michelet sont très précieuses. Alors, une fois que l'œuvre perdue est ainsi documentée, on peut tenter de la retrouver en effectuant une veille des ventes publiques françaises et internationales. Si on parvient à la repérer suffisamment tôt, et si on parvient à le prouver, parce que comme l'a dit Anne tout à l'heure, des œuvres ont pu faire l'objet de répliques. Donc, il faut savoir si nous nous trouvons devant l'œuvre qui se trouvait dans le musée ou d'une qui lui ressemble. Alors, si on parvient à faire tout ça, on peut engager une procédure de restitution. Mais lorsqu'on est seul à s'occuper de la gestion administrative et scientifique d'un musée, comme c'est souvent le cas en province, la veille dans les ventes est pratiquement impossible à mener. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs œuvres passées récemment dans les ventes publiques françaises et internationales n'ont pas été réintégrées dans les collections de Saint-Quentin. Je vous en montre deux. Par exemple, de Léon l'Ermite, le pardon à Ploumanac, exposé au salon de 1879, acquise et déposée par l'État à Saint-Quentin la même année, fut vendue par Sotheby à Londres d'abord en 1980, puis à New York en 2001. Cette œuvre, en plus, était une œuvre acquise par l'État, donc le musée aurait pu enclencher une procédure, mais l'État aurait pu le faire aussi. Un autre exemple de Joseph Caro, la prise d'habit de Mademoiselle de Lavallière au couvent des Carmélites du salon de 1861, dont j'ai connu l'existence par une mention dans le guide Badecker de 1913. Et ensuite, j'ai retrouvé qu'elle avait été offerte par un certain monsieur Milot en 1891. Et j'ai découvert un peu tard, j'ai découvert en 2014 qu'elle avait été vendue par Van Ham à Cologne en 2007. Donc voilà des œuvres qui étaient perdues, qui passent devant les yeux du conservateur et qui restent perdues, qui sont quelque part maintenant dans le monde. Mais enfin, en tout cas, dans les années 2000, elles existaient encore. Alors, après tout ce travail de documentation, on peut déjà élaborer un premier état des pertes. Vous voulez quelques exemples? Alors, par exemple, 10 œuvres offertes par le sculpteur Amédée Houblemard, perdues. 28 œuvres modernes offertes entre 1888 et 1905 par Alphonse de Rothschild, perdues. 6 tableaux du Louvre, perdues. 28 toiles et 5 sculptures modernes déposées par l'État, perdues. La totalité de la collection d'archéologie, perdue. Les 3500 médailles et médaillons d'or, d'argent et de bronze datant de l'époque gallo-romaine au XIXe siècle, perdues. Et je m'arrête là. Alors, après la guerre, dans les années 1920, ces œuvres n'ont pas fait l'objet d'une liste et donc d'une estimation. Et malgré cela, l'État a versé à la ville de Saint-Quentin une somme compensatrice sur les dommages de guerre, ce qui a permis à la ville d'acheter de nouvelles œuvres. Malgré cela, dans les années 2000, lorsque la Cour des comptes exigea des musées un récolement des dépôts de l'État, elle menaça de porter plainte contre le directeur du musée qui ne pouvait retrouver les collections perdues, mais pourtant indemnisées. Donc, c'est un peu l'incohérence de l'administration. Alors, évidemment, des œuvres ont été retrouvées. Je vous renvoie à mon article sur ce sujet dans la Revue des musées de France numéro 4, 2014. Et je passe la parole à Anne pour évoquer le cas du musée de Douai qui n'est guère plus réjouissant.
Alors, un tout petit peu plus, si je puis dire quand même, pour vous taquiner en public. Non, très rapidement, à la différence du musée de Saint-Quentin, le musée de Douai a conservé toutes ses archives, tant réglementaires que photographiques. Vous en avez d'ailleurs un petit aperçu ici à l'écran. Et il a été pillé en septembre 1918, un pillage d'ampleur dans une ville vidée de ses habitants, par l'armée allemande qui battait alors en retraite. Et toute la question, et j'ai beaucoup aimé votre intervention, Madame Perrault, c'est justement d'arriver à convoquer, à trier les informations pertinentes dans cette masse d'archives qui existe encore et qu'il suffit juste d'exploiter. Le temps peut parfois manquer à un conservateur pour ce faire. Alors, le musée de Douai n'a pas eu de chance au XXe siècle puisque à peine s'était-il remis du pillage de 1918, pratiquement à peine avait-il rouvert, qu'en 1939, bis repetita, un nouveau conflit éclate. Une toute petite partie seulement des collections est évacuée et encore aujourd'hui la responsabilité de la ville dans la non-évacuation de l'intégralité des collections d'archéologie, d'ethnographie et d'histoire naturelle est une question qui mérite d'être posée. Toujours est-il que le 11 août 1944, il était situé à côté de la gare, ce musée, et il subit les effets d'un bombardement aérien particulièrement intense qui va détruire une grande partie des bâtiments et toutes les collections qui étaient restées entreposées, enfin presque toutes, et tout est là dans ce presque. Et comme pour la Première Guerre mondiale, les listes de dommages de guerre sont par contre inexactes. On retrouve sur ces listes des œuvres qui sont aujourd'hui présentes dans les collections, et inversement, bien des œuvres absentes ou manquantes ne sont même pas mentionnées. Alors, dans la mémoire de l'établissement, donc, qui a conservé encore une fois toutes ses archives malgré la destruction de 1944, les disparitions dues aux guerres se superposent et s'entremêlent dans cette mémoire du musée. Et à ce jour, des travaux de recensement précis n'ont été établis seulement que pour la collection de peinture, et ça a permis de chiffrer, de donner des nombres et de décanter correctement l'ampleur de ces disparitions sur une collection d'à peu près un millier de peintures en 1918. 253 manquent à l'appel, et sur une collection à peu près similaire en 1944, 217 manquent à l'appel pour fait de guerre. Un très important travail reste à faire toutefois sur les collections qui ne relèvent pas de la peinture, les sculptures, les objets d'art, les objets d'ethnographie, d'archéologie, d'histoire naturelle, dont vous avez ici quelques photographies évocatrices. Alors, cette hétérogénéité, je vais y arriver, qui va demander des connaissances donc poussées dans différents domaines, explique aussi peut-être la difficulté qu'il y a à mener ce travail exhaustif de recensement des pertes. Le musée de la Chartreuse l'a pourtant tenté en mettant en œuvre une campagne de suivi de travaux universitaires sur ces questions, mais il a été aussi contraint de le faire par la Chambre régionale des comptes. Hervé a un peu parlé du rôle des cours des comptes et des chambres régionales des comptes qui manifestent un intérêt très marqué pour la manière dont les musées gèrent leurs collections. Et voilà ce qui m'est arrivé. J'ai pris mes fonctions à Douai en décembre 2006. En février 2007, j'avais un contrôleur de la Chambre régionale des comptes qui a demandé à ce qu'on lui sorte tous les registres d'inventaire et qui, toutes les 5 pages, a pointé du doigt un numéro en disant « vous me le localisez dans 5 minutes ». Et en fait, sur les 60 numéros qu'il a pointés, on n'a pu localiser que 5 œuvres. Alors, c'est un peu embêtant. Donc, je lui ai expliqué qu'il y avait des guerres et qu'elles avaient tout détruit sur leur passage. Il m'a dit « Madame, les preuves manquent. C'est vous qui le dites. Mais où sont ces preuves ?» Et j'entendais avec beaucoup d'attention Marie-Blanche qui parlait de la typologie de ces disparitions. Jusqu'à ce moment-là, dans le vocabulaire que nous utilisions, y compris dans les bases de données, nous parlions d'œuvres disparues. Et petit à petit, ce travail que nous avons mené sur les peintures nous a permis de différencier des cas de figure, des œuvres qui sont effectivement manquantes, absentes lors des récollements décennaux. Elles le sont principalement à Douai pour faits de guerre, mais pas seulement. Et de là, il y a même 2 sous-catégories. Et une circulaire du musée, des services des musées de France est venue préciser l'emploi de ces termes en mai 2016. Et donc, nous distinguons, enfin, à Douai désormais, nous distinguons 2 catégories de disparus ou d'absents, ceux qui sont présumés détruits. Il y a de fortes présomptions pour une destruction dans le cadre du bombardement incendiaire de 1944, mais ce ne sont que des présomptions. Nous ne pouvons pas attester de ces disparitions. Aucun rapport n'a été fait, tant photographique qu'écrit, sur la disparition précise d'une œuvre. Et donc, ces œuvres restent disparues, manquantes, absentes, présumées détruites en 1944 et vraisemblablement volées pour celles qui ont disparu en 1918. Alors, cette précision terminologique était nécessaire parce que l'expérience douaisienne a montré qu'une œuvre disparue, d'ailleurs comme une personne disparue, peut un jour réapparaître. Et c'est ce qui s'est passé tout au long des années où je dirigeais le musée de la Chartreuse de Douai. D'ailleurs, je signale que la plupart de ces œuvres n'ont pas été retrouvées parce que nous menions une politique active de veille sur les bases de données, dans l'insertion dans différents réseaux qui nous auraient permis de les identifier avant leur réapparition. Ce sont en général d'ailleurs des chercheurs qui nous ont signalé ces réapparitions, tant sur le marché de l'art, ça a été le cas d'un tableau de Jules Breton récupéré à New York. Ça a été le cas également d'une petite statuette, une petite sculpture en bronze considérée comme détruite en 1944, mais qui en réalité avait été volée en 1901. Et là aussi, les guerres et les listes des dommages de guerre ont servi un peu de blanchiment, si je puis dire, de disparition, enfin, ont servi d'explication pour des disparitions qui étaient en réalité antérieures et parfois plus problématiques qu'en convoquant simplement l'explication d'une belle bombe tombée un bel après-midi d'août 1944 sur les toitures d'un bâtiment. Un autre tableau retrouvé par nos collègues allemands à Berlin, qui avait été donné par un soldat allemand qui avait battu en retraite à Douai en 1918 et qui s'était servi au passage. Et puis, un Bouddha que nous connaissions par des photographies antérieures à la Première Guerre mondiale et que nous avons retrouvé en 2017 à peu près, emmuré sous un escalier du musée de la Chartreuse. Personne dans l'équipe n'avait conservé la mémoire de cet emmurement, qu'encore aujourd'hui il est difficile pour nous d'expliquer. Mais parfois, ces œuvres disparues, pour fait de guerre, peuvent réapparaître et dans des circonstances et des endroits parfois vraiment improbables. Alors, pour témoigner de l'ampleur de ces disparitions, mais aussi pour aider les différents collègues en région à mieux documenter l'apparence et l'aspect de ces manquants, pour 2 raisons. D'abord, éviter que ces œuvres qui peuvent réapparaître ne soient acquises en toute bonne foi, soit par un particulier, soit pour une institution. Nous avons décidé, avec l'Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France, de mettre en ligne le savoir que nous avions sur ces œuvres en expliquant dans une petite exposition virtuelle le contexte de disparition et en donnant le maximum d'informations possibles sur les fiches qui se trouvent présentes sur la base de données. C'est un travail nécessaire mais chronophage. Et en fait, cette courte exposition rappelle la place importante que ces œuvres disparues ou manquantes ou absentes dans la vue des musées concernés peuvent tenir, tant que leur destruction n'est pas dûment attestée. Et Xavier Perrault, un juriste spécialisé d'ailleurs sur les rapports entre guerre et patrimoine, me faisait remarquer qu'il en est des œuvres comme des personnes. Tant qu'elles ne sont pas officiellement décédées, je parle des personnes bien sûr, elles conservent tous leurs droits quand bien même elles ont disparu. Et dans le fond, ces œuvres absentes ou manquantes restent encore dans les musées de France, inaliénables, imprescriptibles. Elles conservent donc tous leurs droits de trésors nationaux. Je passe très rapidement la parole à Hervé Cabzas. Je voulais juste signaler qu'un colloque s'était tenu au Louvre le 1er juin dernier sur cette question, mais je passe définitivement la parole à Hervé et je m'excuse d'avoir été un peu trop bavarde.
Je voudrais, en clin d'œil au thème de notre journée, en hommage à Madame Michèle Perrault et à ses travaux, vous montrer le triptyque, la pensée aux absents acquis sur les dommages de guerre par Saint-Quentin et sur lequel, en 1927, André de Vambèze a représenté au centre sa mère, à droite son épouse et à gauche sa fille, portant la tenue du grand deuil en souvenir des soldats morts à la guerre. Et pour nous, ces très nombreux chercheurs appartenant à d'innombrables sociétés historiques et archéologiques qui ont emporté avec eux, avec leur mort, un passé jamais retrouvé. Juste une parenthèse, madame, vous parliez des lettres. Le panneau droit du triptyque est intitulé particulièrement « La lettre » et on voit un poilu qui lit une lettre qu'il reçoit. Donc, l'importance de la lettre à correspondance en 14. En tant que chargé de collection, il faut s'interroger sur la façon de lutter contre les disparitions des œuvres et au moins de leurs souvenirs. Alors, ça peut être, bien sûr, en constituant des archives, et il faut laisser le maximum de traces dans les dossiers d'œuvres. Mais les archives sont uniques et fragiles. Elles peuvent elles-mêmes être détruites par accident, par incendie ou par guerre. Voilà la bibliothèque de Saint-Quentin au sortir de la guerre de 14. Et les archives peuvent aussi disparaître par incompétence ou malveillance, car vous ne savez pas qui va vous succéder, et elles peuvent comme ça disparaître. Ainsi, après la Première Guerre mondiale, Saint-Quentin a récupéré une grande partie de ses archives de l'Ancien Régime. Cependant, par le plus grand des hasards, les volumes où était consignée la correspondance entre le pastelliste Latour et la ville avait disparu. La tour qui est emblématique de Saint-Quentin. Et les informations que contenaient ces registres seraient irrémédiablement perdues si, en 1875, Georges Lecoq ne les avait pas publiées. Alors, soyez des Georges Lecoq en puissance, soyez des passeurs d'informations et conservez la trace de vos travaux sur vos musées, sur vos collections. Saisissez toutes les occasions pour publier dans des articles, dans des catalogues d'expositions, dans des catalogues de collections, dans des livres, et les imprimer étant des multiples, il en restera toujours quelques exemplaires dans les bibliothèques. Et comme ça, vous garderez le souvenir d'œuvres peut-être appelées à disparaître. Et j'espère d'ailleurs que les élèves de la promotion Michèle Perrault, qui sont à l'origine de cette belle journée, vont aller jusqu'au bout de leur initiative et publier les actes de cette journée passionnante. Nous vous remercions de votre attention bienveillante.
Merci beaucoup pour cette intervention passionnante et on fera le nécessaire pour essayer de publier. On va laisser la parole à Madame Mathilde Murat.
Donc, dans cette thématique disparition pour fait de guerre, on va faire un petit saut géographique en Irak. Mais d'abord, je voulais me joindre à mes collègues pour remercier les organisatrices et organisateurs de cette journée, de nous donner l'opportunité justement d'aborder des sujets qui sont, comme on l'a déjà dit, assez peu étudiés et parfois même invisibilisés, finalement. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais discuter des vestiges des guerres contemporaines en Irak, donc un saut géographique assez important, dans une communication intitulée « Pas même considéré, déjà rebouché, vestiges des guerres contemporaines, un patrimoine absent pour les générations futures ». Un titre finalement que j'aurais pu agrémenter d'un point d'interrogation, Car comme vous allez le voir, la question est à mon sens encore en suspens, puisqu'on parle de vestiges de guerres très récentes. Les éléments que je vais vous montrer peuvent dater jusqu'à 2016. Donc, tout à l'heure, on a parlé de 2016 en disant que c'était déjà de l'histoire. En Irak, souvent, on considère que c'est quand même très proche encore, 2016. Et puis, je vais faire le pendant peut-être de mes collègues sur une partie, une vision plus site archéologique que muséale, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur les pertes d'objets en Irak dans les musées. Donc, avec cette présentation, mon objectif est de mettre en avant un objet d'étude paradoxal, souvent considéré comme le vecteur de la destruction, de la perte et d'une absence de patrimoine. Et finalement, ça traduit aussi le cheminement intellectuel que j'ai eu pendant ma thèse, puisque moi-même, j'étais partie de ce postulat et je démarrais ma thèse en pensant faire une étude des dégâts sur les sites archéologiques. En effet, les conflits portent souvent atteinte au patrimoine, soit à des fins de propagande, dans le cadre d'une stratégie militaire ou comme des simples dommages collatéraux. Et le patrimoine archéologique dont je vais vous parler aujourd'hui est souvent partiellement détruit, effacé et absent en raison des conflits qui se succèdent au Proche et Moyen-Orient. Toutefois, dans une certaine mesure, et ça a été le deuxième volet de ma réflexion, on peut considérer que le patrimoine récent du Moyen-Orient est aussi et presque avant tout un patrimoine de conflits. Et les vestiges des guerres deviennent ainsi des témoins matériels et mémoriels d'événements marquants de l'histoire du pays. Rarement considérés comme tels, finalement, ces vestiges qui témoignent d'un passé douloureux sont démantelés ou rebouchés à un rythme soutenu. Et pas toujours par réel désintérêt des populations, mais invisibilisant de fait un patrimoine pourtant au cœur de la construction identitaire. En Irak, les grands sites emblématiques du pays, Babylone, Nimroud, Ninive ou encore Khorsabad, ont vu l'implantation de bases militaires en leur sein, ont été endommagées, dynamitées, les destructions parfois enregistrées, voire mises en scène et diffusées sur les réseaux sociaux. Mais partout dans le pays, des centaines de sites moins connus sont également touchés. Alors évidemment, je vous ai mis les extraits vidéo de propagande de Daesh, qui sont les images que vous avez tous dû voir par ailleurs et qui parlent beaucoup. Mais comme je le disais, il y a des centaines de petits sites sur lesquels passent des occupations militaires, sur lesquels des bases ont été implantées parce que les sites archéologiques présentent parfois une élévation et donc surplombent le paysage. Et parfois victimes de dommages collatéraux comme les bombardements ou d'autres circulations de véhicules lourds. Dans le cadre de cette présentation, je parlerai majoritairement de trois sites irakiens sur lesquels des pistes méthodologiques sont en train de se développer pour une archéologie des conflits contemporains en Irak. Et sans rentrer dans le détail, je mentionnerai aussi un corpus de sites qui a permis de définir les grandes tendances de l'occupation militaire sur les sites archéologiques. Donc sur la base de ce corpus de 483 sites qui comprenaient des sites irakiens, des sites syriens et d'Afghanistan, une typologie des dégâts militaires observés sur les sites archéologiques a été établie. Dans la grande majorité des cas, les bases sont rudimentaires et peuvent être constituées d'éléments linéaires de défense et d'éléments ponctuels. Des levées, des tranchées, des positions de tir sont positionnées au sommet des telles archéologiques. Des encoches sont destinées à cacher des véhicules lourds à flanc de pente et des baraquements logent les soldats. Enfin, les impacts de bombes peuvent viser ces positions et venir perturber également les niveaux archéologiques. Inspiré par les travaux du docteur Taborelli sur la Grande Guerre, les traces des vestiges identifiés en Irak ont pu être classées par type, comme vous pouvez le voir sur les schémas, avec des tranchées rectilignes, sinueuses, doublées ou, dans une grande majorité des cas, une tranchée périphérique au sommet des sites. Elles sont parfois agrémentées aussi donc, de positions de tir. Les levées, quant à elles, sont rectilignes, doublées, périphériques ou encore spiralées. Les baraquements ont été observés parfois en architecture de terre en Afghanistan, mais sont systématiquement construites en parpaing en Irak et rarement protégées par des empilements de sacs de sable. Ça a été vu à Babylone notamment, mais sur assez peu de sites finalement. Le campement est généralement centré et constitué d'un seul bâtiment, mais parfois ils peuvent être positionnés en bordure d'un linéaire défensif ou groupés en mini-camps, qui est le terme employé par Taborelli. Par l'analyse détaillée de l'ensemble du corpus par prospection satellite et prospection pédestre, donc la visite d'un certain nombre de ces sites pour mesurer et photographier les dégâts, il a été possible d'identifier les sites les plus vulnérables. Il a été mis en évidence que les critères déterminants de l'implantation d'une base sur un site archéologique sont la morphologie du site et sa position dans le paysage. Donc, par morphologie, j'entends par exemple un site qui serait particulièrement élevé et qui donnerait une position stratégique de visibilité, ou d'autres types de sites qui vont présenter une enceinte ancienne qui pourra être réutilisée comme défense. Ou une position stratégique qui aurait perduré dans le temps, puisque les sites anciens peuvent aussi surveiller une passe dans la montagne, un accès privilégié, être à proximité de routes stratégiques, etc. Les sites les plus vulnérables sont ceux qui ne disposent que d'un seul des deux avantages prérequis à une occupation militaire, soit la morphologie défensive, soit la position stratégique. Car sur ces sites, l'occupation sera plus intensive, constituée de plus d'éléments pour pallier l'absence du second avantage. Les sites à risque intermédiaire sont ceux qui combinent les deux avantages prérequis à une occupation militaire. Ils risquent bien sûr d'être victimes d'occupation, mais de type plus rudimentaire que les autres, puisque, par exemple, si on a une enceinte autour du site, il y aura moins la nécessité de faire des gros mouvements de terre pour créer des levées. Et enfin, les sites les moins susceptibles d'être occupés militairement, évidemment, sont ceux qui ne disposent d'aucun avantage tactique. Ainsi, certains sites, victimes de leur morphologie ou de leur position dans le paysage, se voient fortement défigurés par les occupations. Le site de Khorsabad, que je ne présente plus, dont vous avez une salle dédiée au Louvre, localisé au nord de Mossoul dans la plaine de Ninive, est traversé par la ligne de front qui vient s'implanter sur les murs de la ville au sud à partir de 2014 et plus intensément en 2016. Ici, vous voyez le site de Khorsabad, la ville de Mossoul, les différentes lignes de front qui ont été identifiées. Et sur la carte de droite, vous pouvez voir la ligne de front. L'enceinte de la capitale néo-assyrienne, les portes de la ville et leurs alentours ont vu des mouvements de terre conséquents, causant autant de perturbations à la stratigraphie du site. Les tranchées coupent les niveaux, les levées sont constituées de sédiments raclés à d'autres endroits du site, et les baraquements sont implantés au sommet des portes, amenant des circulations de véhicules lourds à ces endroits et tachant les vestiges sous-jacents. Alors, l'esthétique du paysage de Khorsabad est un peu moins glamour que les lamassous que vous verrez au Louvre, mais voilà à quoi ressemble le site aujourd'hui. Sur cette image en drone réalisée pour la mission archéologique française à Khorsabad, on distingue le système anti-char typique avec une tranchée en avant et une levée en arrière ponctuée environ tous les 300 mètres d'un baraquement cerclé d'une levée militaire. Ici, tirant avantage de l'élévation à l'emplacement des portes 5 et 6 de la ville. Donc, vous voyez ici la porte assyrienne d'accès à la ville surmontée par les levées militaires et ici également. Ici, vous pouvez voir en section les effets de cette occupation au même endroit que ce que je vous montrais avec l'image au drone précédemment. Le profil érodé de l'enceinte assyrienne se devine encore, mais est fortement modifié par les levées contemporaines aux pentes abruptes. Donc, vous voyez ici la pente naturelle, anthropique, mais assyrienne, et ici la levée récente. Et la tranchée anti-tank que vous voyez indiquée T-rect ici et ici, en avant de la levée, située donc avant le mur d'enceinte, à l'extérieur en théorie du site archéologique, coupe des niveaux aux abords de la ville qui n'ont malheureusement jamais été documentés. Sur la citadelle, on observe les mêmes stigmates. La levée militaire vient prendre appui sur la ziggourate, que vous pouvez voir ici. Et les autres éléments se superposent aux salles du palais, venant complexifier encore la stratigraphie déjà complexe des vestiges et des stigmates des fouilles anciennes érodées. Les ruptures stratigraphiques sont donc nombreuses et des stratigraphies inversées sont créées, comme ici en ville basse de Khorsabad, où le sédiment des tranchées est redéposé pour former une levée au centre de l'ouvrage défensif. Enfin, les impacts de bombes sont également d'importants perturbateurs stratigraphiques, causant tassement, dispersion, fracture, réduisant en poussière une partie des vestiges et rendant plus ardue la lecture des niveaux adjacents. Ici, vous pouvez voir les effets d'une bombe sur les niveaux anciens sur le site de Kassar Chemamok. Donc, vous avez la localisation du sondage ici, puisque la stratégie qui a été choisie par les fouilleurs a été de fouiller dans le cratère de la bombe pour espérer atteindre les niveaux inférieurs plus rapidement. Ils en ont profité pour faire une section qui est très intéressante du point de vue de l'archéologie contemporaine et qui documente l'impact de la bombe sur les niveaux stratigraphiques, où vous voyez ici trois fractures obliques générées par l'explosion de la bombe, bien sûr. À gauche de ces fractures, le sédiment a en fait été propulsé, a été mélangé et s'est redéposé. Et donc, vous voyez une masse informe homogène de couleur ocre. Alors qu'à droite des fractures, on peut encore distinguer des niveaux archéologiques plus beige ou plus gris. Donc, vous avez du sédiment qui a été propulsé et qui retombe à l'intérieur du cratère. Et vous avez également du sédiment qui sera projeté, comme vous pouvez le voir ici, et là, de part et d'autre du cratère de la bombe. La dispersion des sédiments autour du cratère revêt également d'une inversion stratigraphique sous forme de halo. Fouiller les sites occupés ou endommagés lors des conflits armés revêt donc un caractère particulier, sans même parler des questions de sécurité liées à la présence de munitions, de fragments de munitions ou d'éléments non explosés. Mais l'archéologue est rarement à court d'idées, et il est possible, en s'inspirant des fouilles de la Grande Guerre et de la guerre civile espagnole, d'envisager des méthodes adaptées permettant de combler au mieux les vides laissés par les niveaux contemporains sur les niveaux anciens. En pratiquant des sections opportunistes, par exemple, dans les entailles laissées par les militaires, ou en fouillant précautionneusement les levées pouvant encore contenir des artefacts. Ou encore, comme ça a été fait à Kassar Chemamok, en relevant les effets d'un impact de bombe pour reconstituer ce qui a été partiellement pulvérisé. Comme sur tous les sites, on peut envisager de sonder les structures militaires, de fouiller en aire ouverte les baraquements ou de réaliser des tranchées en escalier pour mettre en évidence la puissance stratigraphique du site, des âges les plus anciens jusqu'à l'époque contemporaine. Cette démarche revient donc finalement à considérer ce niveau archéologique comme tel et à l'envisager comme un patrimoine digne d'être investigué au même titre que les vestiges antiques qu'il a détruits. Ainsi, en contextualisant les vestiges militaires observés sur les sites archéologiques, on est en mesure d'analyser des paysages complexes de tranchées successives qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Dans la plaine de Ninive, il a été possible de cartographier les lignes de front et les avancées de l'opération de libération de Mossoul de 2014 à 2016 et de corréler les données de l'archéologie satellite avec les récits des médias. Donc ici, vous voyez les lignes vert clair et les lignes orange et rouge. Lorsque les lignes sont en plein, il a été possible d'identifier la ligne de front sur les images satellites et de vectoriser tous les éléments de cette reprise de la ville. Il a ainsi été mis en évidence que Khorsabad n'était pas une position militaire très pertinente lorsqu'elle constitue la limite nord d'un territoire occupé, comme cela a été le cas par Daesh brièvement en 2013, car une avancée vers le nord reste empêchée par la crête du Djebel Bashika, que vous voyez ici floutée en noir au nord. En revanche, en 2016, en limite sud du territoire occupé par les Peshmerga, la prise de Khorsabad agit comme un élément pivot de la ligne de défense et a permis d'accéder rapidement jusqu'à Mossoul et de libérer la ville. Quelques autres exemples témoignent des prémices d'une archéologie contemporaine moyenne-orientale, à Kassar Chemamok, donc avec la fouille du cratère de bombe, le dégagement des fondations d'un baraquement de Saddam Hussein et la fouille d'un trou d'homme, similaire à ceux dégagés dans des niveaux de la Première Guerre mondiale en Europe. Autant d'éléments traduisant la vie quotidienne des soldats, très peu documentés par ailleurs. Ou encore, avec l'étude du paysage à l'est du site de Charax-Passinou dans le sud de l'Irak, pendant la guerre Iran-Irak, où l'on retrouve un système anti-tank de défense similaire à celui de Khorsabad, qui, côté irakien, se développe en suivant les contours de la frontière et avait vocation à défendre l'axe routier Bagdad-Bassora, hautement stratégique. Ici, ce n'est plus la vie quotidienne des soldats qu'on est en mesure de documenter, mais la stratégie militaire qu'on interroge et qu'on documente, loin des considérations seulement médiatiques. Mais ces exemples restent malheureusement, à mon sens, anecdotiques, et de manière plus générale, si certains vestiges sont préservés dans le paysage faute de moyens suffisants pour les démanteler, d'autres, comme les tranchées et les levées, sont détruits au bulldozer et rembrayés à un rythme soutenu. L'agriculture, la croissance urbaine et la volonté d'effacer les traces d'un passé douloureux sont autant de raisons potentielles de leur disparition. Ici, sur l'image de gauche, au sud-est de Charax-Passinou, les vestiges marqués en noir ont déjà été nivelés. Au nord-est de Kars-Chemamok, les petits fortins sur les crêtes montagneuses disparaissent en moins de 3 ans. Vous pouvez voir en janvier 2013, donc l'image notée A, des structures bien visibles, qui sont toujours présentes en juin 2013, malgré un contraste plus faible de l'image, mais là, vous les voyez assez bien, il me semble. Elles sont ensuite progressivement rebouchées et seule la pointe de la structure centrale persiste sur l'image C que vous voyez en bas à gauche, donc en mai 2016, pointe qui persistera jusqu'en octobre 2016 sur la dernière image. À l'est de Khorsabad, c'est la même chose. La ligne de front construite en quelques jours et filant sur une centaine de kilomètres est maintenue brièvement après la prise de Mossoul, puis recouverte par les champs dans le même délai de 3 ans. Sur la dernière image que vous voyez en bas à droite, on ne devine plus que l'empreinte en négatif de la structure, marquée en raison du sol plus meuble qui retient l'humidité. Au nord, dans la plaine de Sherazor, au Kurdistan irakien, les dernières assises de parpaings des baraquements militaires sont aussi progressivement démontées. Or, si la mémoire des événements survit dans les récits des témoins et de leurs descendants, elle ne saurait permettre à elle seule, bien qu'elle soit une source d'information considérable, de produire un discours historique en l'absence des vestiges matériels dont le caractère éphémère est attesté partout en Irak. Des projets ambitieux et indispensables de collecte de cette histoire orale voient d'ailleurs le jour à l'instar du projet Mossoul Eye, qui a pour objectif d'interviewer des habitants de Mossoul et de sa région, des personnes déplacées lors de l'occupation de Daesh notamment. Un travail extrêmement complémentaire à l'étude des vestiges matériels, en ce sens qu'ils peuvent apporter parfois des informations contradictoires qu'il faudra pouvoir mettre en parallèle. L'existence de lieux de mémoire de l'Enfal au Kurdistan irakien, comme la prison rouge de Souleymaniye ou le mémorial d'Al-Abja, témoigne aussi de l'importance des guerres contemporaines dans la construction identitaire. Si le mémorial de l'Enfal à Al-Abja est plutôt un lieu de recueillement avec un cimetière, la prison rouge, quant à elle, est un véritable musée qui a réinvesti l'un des lieux de torture de la ville sous l'occupation de Saddam Hussein, avec une muséographie destinée à ne jamais oublier les horreurs de la période du génocide des Kurdes d'Irak. J'ai choisi une photo qui ne montre pas ces scènes de torture, mais chaque petit fragment de miroir sur l'image de gauche représente une victime de l'Enfal. Ces lieux de mémoire sont des témoins d'un ressenti profond du devoir de mémoire en Irak et encore un indice qui donne à croire qu'une archéologie contemporaine est possible et qu'une revalorisation des vestiges de guerre, y compris sur les sites anciens, pourrait permettre de transmettre aux générations futures un discours historique construit et complet et d'expliquer aussi l'absence de certains pans de l'histoire ancienne. Toutefois, cela soulève encore des questions éthiques, et c'est là que je vais faire une conclusion un peu ouverte, car la question de la conservation, comme on l'a vu aussi ce matin, n'est pas la seule préoccupation et ne peut être dissociée des individus qui entreprendraient les actions. On l'a vu en France, il n'y a pas toujours un accord entre la communauté, l'État, etc. En Irak, autant vous dire que si on rajoute la strate des missions archéologiques étrangères qui viennent fouiller dans un pays auquel ils sont étrangers, de fait, ça rajoute une couche de problématiques et de questions éthiques à se poser avant d'intervenir. La question, donc, pourrait être ailleurs, à savoir qui peut être à l'initiative d'une telle démarche. Une directive gouvernementale de la Direction des Antiquités qui viserait, par exemple, à supprimer toute trace du conflit contemporain devrait-elle être considérée comme comparable à la décision d'un archéologue étranger de détruire au bulldozer des couches contemporaines pour atteindre des niveaux plus anciens sur un site endommagé, comme on a pu, ça fait aussi un parallèle intéressant avec ce qu'on a entendu ce matin à propos de l'Égypte. Qu'en est-il du choix d'un agriculteur de remblayer une tranchée militaire pour retrouver son activité économique ? Et enfin, un projet communautaire de construction d'un mémorial serait-il accueilli de la même manière que l'intérêt d'un archéologue spécialisé dans les conflits contemporains pour l'étude et la préservation de ces vestiges de guerre ? L'un ou l'autre projet aurait-il le même impact sur le processus de rétablissement de la communauté de la victime ? Tant de pistes de réflexion pour le développement ou non, finalement, d'une archéologie des guerres contemporaines en Irak avant que tous les vestiges ne disparaissent. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup pour ces deux interventions vraiment passionnantes, je crois, pour tout le monde. On va laisser la parole aux questions dans la salle, s'il y en a.
Oui, question pour nos collègues des musées. Je me demandais, dans le cadre des ventes publiques que vous évoquiez, il n'y a pas un travail documentaire poussé pour garantir l'authenticité des œuvres, notamment, qui amènerait les maisons de vente ou les commissaires-priseurs à prendre conscience de l'appartenance des œuvres à une collection publique, première chose, et dans un deuxième temps, au meilleur des cas, de vous contacter directement, enfin de contacter directement le musée qui était dépositaire pour lui proposer l'achat ou la restitution, s'ils sont un peu amis des arts.
Alors, juste quelques éléments de réponse pour Douai et le tableau de Jules Breton. C'est effectivement la maison Sotheby's, si ma mémoire est bonne, qui avait contacté, par la voix de sa présidente pour la section France, qui avait contacté ma prédécesseure au musée de la Chartreuse de Douai pour lui dire que Sotheby's avait fait des recherches de provenance. Et on était arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un seul et même tableau, puisque je vous ai fait l'histoire en version très courte. Mais là aussi, il y a eu litige sur le plan juridique pendant au moins une dizaine d'années pour savoir si on parlait de la même œuvre. En tout cas, Sotheby's en était arrivé très rapidement au tournant des années 2000 à la conclusion que ce tableau qui leur avait été présenté en vente était un tableau qui avait été volé au musée de Douai, qu'il était donc inaliénable, imprescriptible. Et voilà. Il y aurait vraiment beaucoup à dire sur le rôle et l'articulation des relations entre maisons de vente aux enchères et musées en matière de recherche des provenances. Je me réjouis d'ailleurs que les 20 dernières années aient fait bouger bien des positions et des situations. Je vais peut-être laisser la parole à Hervé Cabzas ou continuer avec vous peut-être tout à l'heure, mais pour essayer de vous répondre, oui, ça arrive et ce sont souvent par les maisons de vente aux enchères, en tout cas que Douai a été prévenu de la réapparition d'œuvres volées, qu'on pensait détruites parfois ou simplement disparues. Néanmoins, je pense que si les choses évoluent, un gros travail encore de collaboration reste à faire, pour le dire diplomatiquement.
Et un soupçon de complément, encore faut-il savoir que l'œuvre appartenait au musée. Lorsque les conservateurs ou les villes elles-mêmes ne savent pas que telle œuvre appartenait à leur collection, lorsqu'il n'existait pas de catalogue de collections imprimées, lorsque les archives n'existent pas, donc lorsque les anciens propriétaires ne savaient pas que l'œuvre leur appartenait, on peut comprendre que les maisons de vente elles-mêmes ne le sachent pas, à moins d'une inscription. Donc parfois, en toute bonne foi, une œuvre peut être vendue en salle des ventes ou par les marchands sans savoir qu'elle appartenait au musée.
D'où la nécessité de chercher, de publier, notamment sur les bases de données, et de mener une politique de veille, enfin, dans les conditions que vous pourrez mener. Parce que Hervé l'a dit, lorsque vous êtes directeur d'établissement, seul personnel scientifique, ça arrive parfois, c'est difficile de tout faire. C'est passionnant, c'est un métier vraiment super que vous allez tous faire et mener à bien, mais il y a des moments où c'est un peu difficile pour une seule et même personne.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Bonjour, Gaëlle Pernel, je travaille au service du récollement et des dépôts au musée du Louvre. Et pour rebondir sur ces questions, justement, notamment par rapport au musée de Saint-Quentin, je me posais la question justement pour toutes les œuvres qui sont documentées, dont vous savez qu'elles ont disparu dans vos musées. Est-ce que vous avez envisagé, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, de déposer une plainte globale pour les œuvres documentées, je précise bien, justement parce qu'en fait, le processus de dépôt de plainte, même s'il ne règle pas tous les problèmes, je ne dis pas que ça évite la veille, mais ça permet de mettre une alerte supplémentaire en inscrivant justement ces œuvres sur la base TREMA, qui est donc la base de l'OCBC, de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
Alors, mea culpa, mea maxima culpa, je ne l'ai pas fait pour la raison qu'évoquait Anne, parce que lorsque vous êtes seul à porter le musée, certaines choses vous échappent. En revanche, pour le tableau, le pèlerinage à Ploumenac de Léon l'Ermite, j'avais transmis, il existe à la direction des musées de France, un service dédié à cette question. J'avais transmis l'ensemble des dossiers, du dossier d'archives, j'avais fait les photocopies de tout, et aucune réponse à mes longs appels anxieux. Donc, chacun pourrait être partenaire, mais c'est vrai, vous avez raison, j'aurais dû. Mais alors, ça veut dire que j'aurais dû consacrer l'ensemble de mon temps. Et une chose que je ne fais pas, là aussi, je bats ma coulpe, c'est que dès que je trouve un tableau ou une œuvre ou une sculpture absente, il faudrait que je constitue un dossier, etc. Et j'aurais autant de fichiers d'œuvres perdues que d'œuvres présentes. Et honnêtement, le quotidien vous happe et ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que j'aurais dû, là, vous réactiver une mauvaise conscience et dans une prochaine vie, je le jure, votre honneur, je le ferai, mais pardon. Voilà, c'est une erreur, c'est une faute, simplement. Certes, voilà une réponse positive que j'attendais.
Bonjour, merci infiniment pour ces présentations absolument passionnantes. Ma question est un peu dans la continuité de la précédente relative au musée de Douai et de Saint-Quentin, je suis là. Et on a vu, et donc vous avez souligné le rôle finalement central des CRC, des cours régionales des comptes dans ce processus-là, et une petite question de curiosité, qu'en est-il justement de la réception de tout ce processus, parce qu'on imagine bien que vous avez transmis ces éléments-là au CRC.
Alors concrètement, le contrôle à la Chambre régionale des comptes à Douai a duré 2 ans. Donc, pendant 2 ans, vous affrontez toutes les semaines ou tous les 2 jours en moyenne des questions extrêmement ciblées sur les raisons des absences, pourquoi vous avez affecté telle part de budget à telle opération. Donc, en fait, bon, pendant 2 ans, la vie quotidienne, votre vie quotidienne professionnelle est perturbée puisque vous devez répondre sans arrêt. Néanmoins, je trouve que ça a eu une vertu, pour Douai en tout cas, absolument exemplaire, c'est que ça a forcé le musée, qui avait déjà commencé ce travail mémoriel-là, mais à documenter systématiquement les absents, à classer ses archives, à lancer des travaux universitaires, et puis ça a sensibilisé les élus et les douaisiens à la réalité de ce qu'avaient été les conditions de vie de la ville pendant les 2 guerres mondiales, du fait que ça n'avait pas seulement affecté un outil économique, ça n'avait pas seulement tué et blessé un nombre incalculable de personnes, mais que le patrimoine de la ville en avait été durablement affecté. Alors, je n'y voyais de ma part aucune preuve de cynisme, mais finalement, sur le coup, j'ai beaucoup pesté intérieurement de devoir répondre tous les 2 jours à des questions vraiment extrêmement pointues d'un contrôleur, d'ailleurs, au travail duquel je tiens à rendre hommage parce qu'il était très sérieux. Mais en contrepartie, ça m'a remise sur des bons rails. Alors, après, une fois que vous avez répondu à ces questions, il y a un rapport provisoire, vous passez un grand oral devant tout votre conseil municipal, devant la presse, devant le contrôleur, etc., parce qu'il a fait tout un tas d'observations, en général, qui ne sont pas toujours élogieux. Elles ne sont pas toujours élogieuses, ces observations sur la manière dont vous avez géré les collections de votre établissement. Donc, voilà, c'est vraiment un tribunal, quoi. Donc, vous répondez à l'oral. En général, les guerres, ça a ça de commun, de pratique, si je puis dire, toujours avec beaucoup de cynisme, que ça s'est passé il y a très longtemps, enfin, pas si longtemps que ça en même temps, que vous pouvez expliquer effectivement un grand nombre de disparitions comme ça, que vous-même n'étiez pas né, donc vous n'êtes pas pour grand-chose dans cette histoire, mais qu'effectivement, il faut faire maintenant avec les traces tant d'archives que photographiques et que l'absence elle-même que vous a laissé le dit passer. Donc, ça a eu cette vertu-là, c'est que cette histoire a été connue. On a été obligé de s'expliquer devant notre tutelle, d'expliquer que effectivement notre responsabilité de professionnel désormais, c'était de publier premièrement l'information sur les bases. Ça a beaucoup évolué en 20 ans et je rejoins la question de Gaëlle sur le dépôt de plainte. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, il n'y a pas très longtemps, voilà. Aussi, il y a une bonne vingtaine d'années, quand même, à l'époque, le mot d'ordre était justement de ne pas déposer plainte tant qu'on n'avait pas documenté exhaustivement l'aspect, les caractéristiques techniques et matérielles d'une œuvre disparue. Et donc, je constate d'ailleurs avec beaucoup de joie que là-dessus, la position du ministère d'abord et des différentes tutelles ont beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, le dépôt de plainte, il est recommandé quand bien même ce patrimoine absent n'est pas facilement documenté ou documentable. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour ceux d'entre vous qui prendront un poste dans un musée, vous aurez tôt ou tard dans votre carrière à faire avec un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Si ça tombe sur la manière dont votre tutelle utilise les finances, vous ne serez pas trop impacté. Si par contre, ça tombe sur la manière dont vous-même, vos prédécesseurs et vos successeurs ont géré les collections et ont appliqué les décrets réglementaires, le code du patrimoine, enfin toutes les préconisations qui sont les nôtres en tant que professionnels, c'est un moment intéressant à passer. Parfois difficile, pas très drôle, mais c'est intéressant. Voilà, belle leçon de vie.
Puis Anne est trop modeste pour le dire, mais ça a eu un prolongement aussi scientifiquement, puisqu'elle est l'auteur d'un brillant mémoire universitaire consacré à la collection de peintures disparues pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est
gentil, j'ai mon hagiographe dans la salle, c'est super.
Bonjour à tous. Maximilien Fortier, élève conservateur, je me permettrai de relayer toute la journée les questions posées en visioconférence. Nous avons ici une question de Olivier Veller qui demande à Mathilde Murat, peut-on envisager un jour de croiser non seulement les vestiges matériels et les mémoires du conflit, mais également les archives militaires et non pas seulement les images de propagande ou d'actualité que l'on peut avoir?
Oui, bien sûr. Ce n'est pas toujours facile sur l'Irak. Il y a quelques cartes soviétiques de positionnement de bases militaires, etc. Il y a sans doute des sources historiques qui sont encore classifiées. On utilise déjà des sources déclassifiées en matière d'imagerie satellite, mais pour avoir accès à des sources déclassifiées américaines sur des interventions plus récentes, il va falloir attendre encore un petit peu. Mais effectivement, c'est, pour l'instant, on fait plus un parallèle images satellites, sources médiatiques et journalistiques. Et à terme, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le triptyque complété par des sources historiques déclassifiées militaires. Évidemment.
Merci beaucoup. On va passer au panel suivant, du coup.